Merci pour l'introduction, merci pour ces beaux chants qui nous placent dans la présence de notre Seigneur. Ce matin, la question que j'aimerais que nous nous posions, c'est comment honorer Dieu dans notre société post-chrétienne? Comment faire pour honorer Dieu dans notre vie de tous les jours? Et je ne parle pas du dimanche, mais je parle du lundi au samedi. C'est vrai que les événements que nous rencontrons dans notre monde actuel ébranlent nos convictions, ébranle notre foi. Et on se dit, mais où va notre monde? Quand on regarde les guerres à Gaza ou en Ukraine, quand on regarde les problèmes climatiques, les problèmes économiques, on se dit, mais où va notre monde? Quelle est notre place en tant que chrétien? Et je crois qu'on sent que le bien recule, en tout cas dans certaines parties du monde, que le bien recule et que le mal avance. Et ça nous fait mal et on se dit, mais quel est l'avenir? Quel est notre avenir? Quel est l'avenir que nous laissons aussi à nos enfants, à nos petits-enfants? Comment ça va se passer pour eux dans ce monde? Est-ce que, en tant que chrétien, est-ce qu'on a encore une place dans notre société? Dans cette société qui a tellement de la peine à entendre un message qui vient de la part de Dieu? Et peut-être qu'on est tenté de se replier, de se dire, ben voilà, le dimanche à l'espérance, c'est génial, on va vivre plus que ça, le dimanche à l'espérance, et puis tant pis pour le reste de la semaine. On pourrait être tenté de se replier. Et je crois que c'est exactement ce que devait penser, il y a 2600 ans, un jeune homme qui s'appelait Daniel. Et son histoire à la cour du roi babylonien Nebuchadnezzar nous parle, en tout cas me parle et me touche. Et j'ai déjà prêché plusieurs fois dessus, et j'y reviens. Alors désolé, c'est le truc qui arrive avec l'âge, hein, on tourne un peu en rond. Mais ça me touche vraiment ce que Daniel a vécu à la cour du roi Nebuchadnezzar. Et il me semble que son histoire, elle est tellement proche de la nôtre. Son contexte de vie ressemble tellement par moments au nôtre que cette histoire a vraiment quelque chose à nous dire et qu'on peut apprendre comment vivre dans un monde qui s'éloigne de Dieu. Alors je vous invite à lire le premier chapitre de Daniel, une partie du premier chapitre, où on voit les débuts de Daniel à la cour de Nebuchadnezzar avec ses amis, et on va essayer de repérer qu'est-ce qui a fait la différence dans leur vie. Ils ont un témoignage qui honorait le Seigneur, qu'est-ce qui a fait la différence? Donc je vous invite à lire dans le premier chapitre, on commence au verset 3. Le roi donna l'ordre, donc le roi c'est Nebuchadnezzar, le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur renseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrais-je vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec les serviteurs, avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne Cyrus. Ici donc, Daniel arrive à la cour du roi Nebuchadnezzar, arrive à Babylone. Il est tout jeune. Pour ceux qui se diraient « ça ne me concerne pas parce que je suis plus âgé que lui », peut-être qu'il avait quelque chose comme 18 ans. On essaiera de faire un calcul tout à l'heure, mais vous verrez que vous êtes aussi concernés. Je suis concerné, on est tous concernés. Donc il est arrivé à la cour du roi Nebuchadnezzar, et depuis le début de la déportation du peuple hébreu à la cour du roi Nebuchadnezzar, il va se passer 70 ans d'exil, où ils vont être à Babylone avant de pouvoir retourner dans leur pays. Daniel va faire partie d'une élite qui a été déportée pour arriver à la cour du roi, et il va avoir un témoignage auprès de différents rois pendant toute sa vie. Et son exemple nous interpelle parce qu'il vit dans un contexte difficile où la foi est bafouée et rejetée et il arrive à avoir un témoignage qui honore Dieu. Et en lisant l'histoire de Daniel, il me semble que j'ai vu 3 clés qui ont aidé Daniel et ses compagnons à ne pas sombrer dans cette société qui était très hostile à leur foi biblique. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse réfléchir à ces 3 clés qu'il y a dans ce texte. Alors, pour mieux comprendre Daniel et son exemple, je crois que c'est important de comprendre le contexte dans lequel ils vivent. Donc ils viennent d'être déportés, ils étaient à Jérusalem, Jérusalem a été assiégée, a été détruite, la ville a été prise, et ces jeunes ont été déportés à Babylone, à des milliers de kilomètres. Le temple qui était le symbole de la présence de Dieu, le temple a été pris, a été détruit, a été pillé, a été brûlé. Il se retrouve à des milliers de kilomètres de cette présence symbolique de Dieu. Et c'est une jeunesse dorée qui a été emmenée. Ils ont emmené toute la jeunesse dorée à Babylone pour servir auprès du roi. Et évidemment, la question qui se pose pour eux, c'est où est Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu dans cette histoire? Où est Dieu quand un roi impie vient massacrer les gens, vient détruire la ville, vient brûler le temple? Où est Dieu à ce moment-là? Et évidemment, vous voyez où je veux en venir. Nous, on se pose la même question. On se dit, mais où est Dieu dans notre société? Et notre situation, notre société ressemble tellement à cette société qui était loin de Dieu. On vit dans un monde post-chrétien. On voit que les racines de notre foi sont attaquées. Tout ce qui fait la richesse, ce qui nous semble faire la richesse de notre civilisation est attaqué. La racine biblique de notre société est attaquée. Notre foi est attaquée. On a de la peine à parler de notre foi dans l'espace public. On nous dit, mais c'est privé, c'est confiné chez vous. Surtout, ne sortez pas pour en parler. On se rend compte que de plus en plus, ça devient difficile de parler de notre foi et qu'en tout cas, ce n'est pas bienvenu dans l'espace public. Et on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce que fait Dieu dans un monde aussi hostile à lui? Qu'est-ce que fait Dieu dans notre société aussi hostile? Et Daniel, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait avec ses compagnons pour ne pas perdre sa foi en ce Dieu souverain, pour ne pas perdre, pour ne pas se diluer dans ce monde différent? Eh bien, Daniel prend une grande décision. Et c'est notre première clé. Il prend la décision d'un engagement ferme face à la tentation. On a lu au verset 8, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Daniel prend la décision donc de ne pas manger les mêmes plats et de ne pas partager les mêmes vins que les autres personnes à la cour du roi. Pourquoi ? Certainement pour respecter la loi de Moïse qui interdisait certaines choses, mais aussi pour marquer une limite très claire entre lui, leur foi et la foi et les croyances des gens avec qui ils étaient, pour ne pas se fondre dans la culture ambiante. Il s'est positionné très clairement par rapport à sa culture ambiante. Et je crois que ça nous interpelle. Est-ce qu'il y a des domaines où je dois me positionner par rapport à la culture ambiante ? Est-ce qu'il y a des domaines où tu dois te positionner par rapport à la culture ambiante et fixer des limites ? Alors j'ai envie de citer quelques domaines, mais vous en aurez d'autres qui vont venir à l'idée, mais des domaines où notre pensée n'est pas forcément, comme nous croyons, on n'a pas forcément la même pensée que la société qui nous entoure. Ces domaines, c'est super d'avoir de belles expériences sexuelles avant le mariage ou même en dehors du mariage. On entend ça constamment dans notre société. Où c'est tout à fait légitime de vouloir gravir les échelons de la société, de vouloir gravir les échelons de l'entreprise dans laquelle je suis, de pouvoir avoir des ambitions pour avoir toujours plus de richesses, toujours plus de pouvoir, toujours plus de biens matériels. Où c'est tout à fait légitime d'avoir la liberté de pouvoir toucher à certaines choses, de regarder tous les films qui passent, de pouvoir toucher à la pornographie, de pouvoir lire tous les livres qu'il y a. C'est tout à fait légitime de pouvoir profiter de cela, de pouvoir profiter de tous les loisirs que la société nous offre. Il y a des domaines comme ça où nous sommes appelés à avoir de la vigilance et à fixer des limites. Est-ce qu'il y a un domaine où je me sens concerné ce matin, où tu te sens peut-être concerné dans la société qui nous environne? Pourquoi est-ce que Daniel a tenu bon dans cette société? Il a tenu bon pendant 70 ans à la cour de différents rois, parce qu'il a fixé des limites très claires. Il a pris une décision de ne pas se souiller avant d'y être confronté à cela. Ce n'est pas dans le feu de l'action qu'il a décidé de le faire, mais il a décidé de le faire avant. Parce que généralement, dans le feu de l'action, c'est trop tard. C'est avant que ça se passe. Et l'exemple de Daniel nous invite aussi à prendre des décisions avant d'être confronté dans le feu d'action. Il y a des années, j'ai lu un livre sur le regard des hommes, un livre chrétien sur le regard des hommes vis-à-vis des femmes. Et ça a changé ma perception des choses. J'ai compris que mon regard sur les femmes n'était pas sain. Ni pour moi, ni pour Sonia, ni pour les autres femmes, ni pour Dieu. Et j'ai pris des décisions très claires par rapport à cela. Alors je ne vous dis pas ça pour me prendre comme exemple, parce que je continue à être pêcheur et à trébucher régulièrement, mais j'ai pris la décision de ne pas m'attarder sur la silhouette des autres femmes. Et c'est une parole biblique. Job a dit à un moment, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille ?» C'est Job qui dit ça. Et chaque fois que j'arrive à tenir cette décision ferme, à détourner mon regard de la silhouette de jolie femme, eh bien, je crois que j'honore Dieu, j'honore Sonia et j'honore les autres femmes. Et chaque fois que je trébuche, je sais que je fais du mal. Et ce n'est pas sur le moment qu'on peut prendre ce genre de décision, c'est en amont. C'est quand on y pense calmement, dans la tranquillité, dans l'intimité avec le Seigneur, qu'on peut prendre des décisions fermes et qu'ensuite le Seigneur nous donne la force de tenir. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ça et peut-être prendre des décisions en amont, en sachant que le Seigneur est là. Le Seigneur a du plaisir quand on veut le suivre et quand on veut prendre des décisions. Et le Seigneur veut nous accompagner, nous donner la force de tenir. Est-ce que ce matin, il y a un domaine précis qui nous touche, qui te touche et qui me touche, où le Seigneur nous appelle à prendre une décision? Eh bien, on passera un temps peut-être à la fin, dans la prière, où on pourra prendre ce genre de décision. Mais si nous prenons ce genre de décision, sachons que le Seigneur va vraiment nous accompagner, parce qu'il a à cœur de nous accompagner dans les difficultés. La deuxième clé, oui, je vais encore vous lire encore un texte dans, c'est vrai, de Paul que j'aime bien, où Paul dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le Seigneur veut nous accompagner, veut nous aider dans les tentations. » Alors Daniel aurait pu se limiter à cette première décision, hein, de prendre une décision ferme, de ne pas se souiller avec la société environnante, et finalement de rester en marge de la société, de se retirer dans un coin. Mais Daniel souhaite aussi s'engager pour le bien de la nouvelle société dans laquelle il est. Et cette décision de ne pas se souiller, elle n'arrange pas tellement son responsable. On a lu au verset 10, hein, ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrais-je vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Comment vivre sa foi dans une société hostile ? On arrive à la deuxième clé. Daniel fait preuve d'une attitude positive, d'une attitude constructive dans la société dans laquelle il se trouve. Et la réponse de Daniel à cette intendance, on lit à partir du verset 11. Hein, Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. » Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Daniel aurait pu critiquer le roi ou la cour. Daniel aurait pu exiger une solution raisonnable, aurait pu s'enfermer, s'isoler quelque part. Eh bien non, Daniel fait preuve de sagesse et il propose une solution acceptable par les autorités. C'est une solution sans compromis avec sa foi, mais c'est une solution qui est acceptable pour les autres. Tester une alimentation différente, tester des boissons différentes et voir le résultat. Et on connaît le résultat, on l'a lu tout à l'heure, il se porte mieux que les autres jeunes, mais surtout aussi sa solution, elle est acceptée par le responsable. Et Daniel pourra continuer, à la place de se retirer, Daniel va pouvoir continuer à s'engager au service de différents rois pendant près de 70 ans. Et son témoignage, vous vous rappelez peut-être, mais il a touché le cœur de différents rois, dont un roi qui a reconnu la souveraineté du Dieu d'Israël. Ça nous rappelle peut-être ce que fait Daniel de s'engager pour la société, pour le bien de sa société. Ça nous rappelle peut-être le conseil que Jérémie avait donné aux exilés, exactement à cette époque, où Jérémie a dit aux exilés, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Et Daniel met ce conseil en pratique, le conseil de Jérémie, il le met en pratique en recherchant le bien de la société dans laquelle il est. Et de nouveau, ça, je crois que ça nous interpelle, parce qu'on est un peu découragé de voir la direction générale que prend la société dans laquelle on est. On est un peu découragé de voir que voilà, ça va dans une direction qui est contraire à Dieu. Et on aurait peut-être envie de se retirer de la société et de vivre en vase clos avec nos frères et sœurs dans la foi. Mais Daniel nous encourage au contraire à aller au devant de la société et à proposer des solutions, à agir pour le bien de la société. Comment ? Eh bien, avec cette deuxième clé de Daniel, hein, avoir une attitude positive et constructive, proposer des solutions sans renier notre foi. En 1978, le président américain, c'était Jimmy Carter, un chrétien engagé. Et Jimmy Carter a réussi un truc absolument incroyable. Il a réussi à faire signer un accord de paix entre Israël et l'Égypte. 47 ans plus tard, c'est le seul accord de paix, à ma connaissance, entre Israël et un pays arabe. Comment il a réussi ce tour de force ? Il a réuni les deux présidents pendant 10 jours... et les a obligés à négocier ensemble. Et ça, et si j'ai bien compris, après le 9e jour, c'était vraiment pas gagné. Deux présidents qui ne pouvaient pas se voir, il a réussi à les réunir à la même table et à les faire négocier jusqu'à ce que l'accord tombe. Et l'accord a été conclu et l'accord tient toujours entre Israël et un pays arabe. Un président croyant, et je crois qu'il a puisé, qu'il a été inspiré par Dieu, a réussi à faire un accord de paix qui tient après 47 ans dans un contexte tellement difficile. On n'est pas président des États-Unis, mais je crois qu'on peut apprendre de ces choses, qu'avec la grâce du Seigneur, on peut avoir une influence décisive sur la société qui nous entoure, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, dans notre ville ou dans notre commune. Comment est-ce qu'on pourrait s'investir pour le bien de notre société, là où nous sommes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le bien de notre société? Alors j'aime bien l'initiative citoyenne, Gérald, que tu as proposée. Je pense qu'on en reparlera. Peut-être de faire quelque chose pour la commune de Nancy, de nous engager pour la commune de Nancy, de faire quelque chose qui aide la commune. Et on peut avoir un témoignage chrétien. On peut dire, voilà, c'est parce qu'on a des convictions qu'on fait cela pour la commune. Ou peut-être toi, dans ton entourage, qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette semaine qui vient pour le bien de tes collègues de travail, pour le bien de tes voisins, pour le bien de la société dans laquelle on se trouve? Demandons au Seigneur de nous inspirer, de nous montrer dans quel domaine nous pouvons faire quelque chose, et le Seigneur le fera. Le Seigneur a à cœur les gens qui nous entourent, et le Seigneur veut nous utiliser, veut utiliser toi et moi pour le bien de ceux qui nous entourent. Si nous le demandons au Seigneur, le Seigneur va nous entendre, le Seigneur va ouvrir des portes. Alors on a vu que Daniel a pris un engagement très ferme face à la tentation, c'est la première clé. On a vu qu'il avait une attitude positive et constructive dans cette société hostile à Dieu, c'est la deuxième clé. Et dans la troisième partie, regardons d'où Daniel puisait sa force, et ce sera la troisième clé. Ça ne se trouve pas de manière explicite dans le texte qu'on a lu, dans Daniel 1, le premier chapitre, où il arrive à la cour du roi. Mais on trouve ça beaucoup plus tard, on trouve ça 60 ans plus tard. Je vous ai dit qu'on ferait un petit calcul, hein. Il avait peut-être 18 ans quand il arrive à la cour. Si on rajoute 60 ans, on arrive à 78 ans. Donc on a le droit, nous qui avons des cheveux blancs, à nous sentir concernés par l'aventure de Daniel. Et on va lire d'où Daniel tirait sa force 60 ans plus tard, à la cour du roi Darius, quand il a été accusé et qu'il a fini dans la fosse aux lions. On lit dans Daniel chapitre 6, le verset 11. « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre de l'étage à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, comme il le faisait avant. » Voilà la troisième clé. Daniel est régulièrement à l'écoute du Seigneur dans la prière. Et le texte, j'aime bien, le texte précise, trois fois par jour, tout comme il le faisait avant. Trois fois par jour, tout comme il le faisait avant. Une habitude de vie qui l'accompagne pendant des décennies à la cour de différents rois. Et je crois qu'après 60 ans à la cour des rois, Daniel a toujours su ou a toujours appliqué ça, que la prière, c'est pas le dernier recours quand tout va mal, mais c'est le premier recours avant de partir à la bataille ou sur le chantier ou au travail. C'est une attitude quotidienne, une attitude régulière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est dans la prière que Daniel reçoit la sagesse dont il fait preuve? On a parlé de ces deux clés. Est-ce que vous pensez avec moi que c'est dans la prière qu'il reçoit sa sagesse? On est d'accord. Alors j'ai une question beaucoup plus dérangeante. Est-ce que vous pensez que c'est dans une prière d'intercession où il parlait à Dieu qu'il a reçu cette sagesse? Ou est-ce que vous pensez que c'est dans une prière d'écoute, où il était à l'écoute de Dieu, qu'il a reçu cette sagesse? Est-ce qu'il était en train de prier pour le peuple dans lequel il était, ou auprès duquel il était? Ou est-ce qu'il était dans le silence, en train d'écouter Dieu? On ne le sait pas, hein. Mais moi c'est une question qui me dérange, parce que j'ai beaucoup plus de peine avec la prière d'écoute qu'avec la prière d'intercession. C'est tellement facile de dire, Seigneur, voilà ma liste de ce que j'aimerais, ce dont j'ai besoin, mes amis ont besoin, ma famille, mon église. Et c'est tellement plus difficile d'être à l'écoute du Seigneur. Est-ce que vous arrivez à faire silence devant le Seigneur? pour être à son écoute. Moi, je crois que c'est dans le silence que Daniel, c'est pas qu'il est dans le texte, hein, mais je crois que c'est dans le silence devant Dieu que Daniel a reçu sa sagesse et ses instructions et ses directives, qu'il a pu parler de changer les plats, de changer le vin. Je crois que c'est dans le silence devant Dieu. Il y a quelques semaines, dans ma prière avec le Seigneur, je disais, mais Seigneur, j'ai besoin de pouvoir mieux t'entendre, de pouvoir passer plus de temps à ton écoute. Apprends-moi à être à ton écoute. Et dans la prière, j'ai reçu comme une réponse du Seigneur, une conviction, comme si le Seigneur me disait, mais tais-toi, Philippe, fais silence, et je vais te parler. Sois simplement tranquille, et je vais te parler. Et comme si c'était une toute petite voix. Et au début, comme si le Seigneur me disait, au début, tu auras de la peine à bien comprendre, à bien entendre, mais tu vas apprendre. Ça va prendre du temps, mais tu vas apprendre. Et ça me fait penser à, vous savez, certaines musiques, on dit, c'est une musique qui est tellement belle parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes. Et d'autres musiques sont pompeuses parce qu'il y a beaucoup de notes. Moi, j'aime bien les musiques où il n'y a pas beaucoup de notes, des musiques tranquilles où il n'y a pas beaucoup de notes. Comme si le Seigneur me disait, c'est comme ça que je parle. Avec pas beaucoup de notes, il faut prêter l'oreille et tu entendras et tu apprendras. On est en chemin. On est en chemin. On est tous en chemin. Et on veut se mettre à l'écoute du Seigneur. Et si on veut se mettre à l'écoute du Seigneur, c'est sûr que le Seigneur va se révéler et va se faire entendre. Parce que c'est ce que le Seigneur a le plus à cœur, c'est d'être en communion, en intimité avec toi et moi. Ok. Alors, ça avance. Il y a juste, si tu veux mettre juste la conclusion, ouais, excuse-moi, ça a pris du retard pour avancer, mais c'est bon, merci. Donc on arrive à la fin, et on a vu ces trois clés qui font la différence dans la vie de Daniel. Première clé, prendre un engagement ferme face à la tentation. Deuxième clé, avoir une attitude positive et constructive dans la société. Et troisième clé, être régulièrement à l'écoute du Seigneur dans la prière. Est-ce qu'une de ces trois clés me parle, te parle ce matin? Laquelle des trois clés te parle le plus ce matin? Est-ce que c'est une décision à prendre ce matin, face à la tentation, face à ce que toute la société nous offre? Est-ce que c'est d'avoir une attitude plus positive dans notre société et proposer des solutions au lieu de nous retirer dans notre coin? Ou est-ce que c'est avoir une attitude d'écoute envers le Seigneur, de chercher la présence et les réponses du Seigneur dans la prière? Je vous invite à y réfléchir pendant quelques minutes, et puis je terminerai ensuite par une prière. Voilà, qu'on se sentez-vous libre de placer ces trois éléments devant le Seigneur, et puis de demander au Seigneur de nous montrer ce qu'il attend de nous, en sachant que le Seigneur veut nous accompagner dans cette démarche, veut nous aider à prendre les bonnes décisions, que ce soit une décision de fixer des limites, une décision d'être plus positif dans la société, ou une décision de prendre du temps avec le Seigneur. Voilà, on remet les trois clés. Je vous invite à y réfléchir quelques minutes, et puis je terminerai par la prière. Oui, merci Seigneur, parce que tu connais notre situation à chacun. Tu vois la situation, la société dans laquelle on se trouve, une société qui est hostile à toi en grande partie. Tu vois les difficultés que cela représente pour nous, parce qu'on aimerait avoir un témoignage qui t'honore, mais ce n'est pas facile. Seigneur, merci pour l'exemple de Daniel, qui a réussi à tenir dans la durée pendant des décennies. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, c'est possible. Sans toi, on sait bien qu'on n'y arrivera pas, mais avec toi, c'est possible. Seigneur, on veut te faire confiance. Tu vois, là on a été touché ce matin, là on a envie de prendre une décision avec toi pour changer quelque chose dans notre vie. Seigneur, bénis nos décisions. Bénis nos décisions. Merci Seigneur parce que tu nous acceptes tels que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. Merci Seigneur parce que tu veux nous accompagner dans la semaine qui s'ouvre, dans les temps qui s'ouvrent, pour que nous puissions tenir face aux décisions que nous avons prises, que nous puissions les tenir dans la durée avec ton aide. Merci Saint-Esprit de nous inspirer dans notre, dans ce que nous faisons. Nous voulons te louer et te bénir pour cela. Amen.